Question. Es-tu en train de dire que le monde aura toujours des problèmes? Es-tu en train de dire que c'est ta volonté? Réponse. Je dis que si le monde est comme il est, tout comme un flocon de neige est comme il est, c'est à dessein. C'est toi qui l'as créé ainsi, tout comme tu as créé ta vie exactement comme elle est. Je veux ce que tu veux. Le jour où tu voudras vraiment mettre fin à la faim, il n'y aura plus de faim. Je t'ai donné toutes les ressources nécessaires. Tu as fabriqué tous les outils nécessaires pour effectuer ce choix, et tu ne l'as pas fait. Non pas parce que tu ne peux pas le faire. Demain, le monde pourrait mettre fin à la faim dans le monde. Tu choisis de ne pas le faire. Tu prétends qu'il y a de bonnes raisons pour que 40 000 personnes par jour meurent de faim. Il n'y en a pas. Cependant, en même temps que vous prétendez ne pouvoir empêcher 40 000 personnes par jour de mourir de faim, vous faites entrer 50 000 personnes par jour dans votre monde pour qu'elles commencent une nouvelle vie. Et vous appelez cela de l'amour. Vous appelez ça le plan de Dieu. C'est un plan totalement dépourvu de logique ou de raison, sans parler de compassion. Je suis en train de vous montrer, en termes durs, que si le monde est comme il est, c'est parce que vous l'avez voulu ainsi. Vous détruisez systématiquement votre propre environnement, puis vous dites que les désastres supposément naturels sont la preuve d'un cruel canular de Dieu ou de l'âpreté de la nature. Vous vous êtes monté un canular et ce sont vos gestes qui sont cruels. Rien n'est plus doux que la nature, et rien n'a été plus cruel que l'homme envers la nature. Cependant, vous vous dégagez de toute implication là-dedans. Vous niez toute responsabilité. « Ce n'est pas ma faute, dites-vous, et en cela vous avez raison. Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de choix. Vous pouvez choisir de mettre fin, demain, à la destruction de vos forêts tropicales. Vous pouvez choisir de cesser d'épuiser la couche protectrice qui flotte au-dessus de votre planète. Vous pouvez choisir de cesser le massacre continu de l'ingénieux écosystème de votre Terre. Vous pouvez chercher à reconstituer le flocon de neige, ou du moins à faire cesser son inexorable fonte. Mais le ferez-vous ? De même, vous pouvez mettre fin, demain, à toute guerre. Simplement, facilement, tout ce qu'il faut, et ce qu'il a jamais fallu, c'est que vous vous entendiez tous. Mais si vous ne pouvez pas vous entendre tous sur quelque chose d'aussi simple que de cesser de vous entretuer, comment pouvez-vous appeler le ciel en montrant des points pour qu'il remette votre vie en place ? Je ne ferai pour vous rien de plus que ce que je ferai pour votre soi. Voilà la loi et les prophéties. Si le monde est dans l'état où il se trouve, c'est à cause de vous et des choix que vous avez faits, ou n'avez pas réussi à faire. Ne pas décider, c'est décider. Si la terre est dans l'état où elle se trouve, c'est à cause de vous et des choix que vous avez faits, ou n'avez pas réussi à faire. Si ta propre vie est comme elle se trouve, c'est à cause de toi et des choix que tu as faits, ou n'as pas réussi à faire. Question. Mais je n'ai pas choisi d'être heurté par ce camion. Je n'ai pas choisi d'être attaqué par ce voleur ou violé par ce maniaque. Les gens pourraient dire ça. Il y a des gens dans le monde qui pourraient dire ça. Réponse. Vous êtes tous à la racine des conditions existantes qui créent dans le voleur le désir ou la perception du besoin de voler. Vous avez tous créé la conscience qui rend le viol possible. Si lorsque vous verrez en vous-même ce qui a causé le crime, que vous commencerez, enfin, à guérir les conditions qui lui ont donné naissance. Nourrissez vos affamés, donnez de la dignité à vos pauvres, accordez une chance aux moins fortunés d'entre vous, mettez fin aux préjugés qui tiennent des masses blotties et furieuses sans grande promesse d'un meilleur lendemain, écartez vos tabous et vos restrictions inutiles sur l'énergie sexuelle, aidez plutôt les autres à vraiment comprendre sa merveille et à la canaliser comme il convient. Faites ces choses-là, et vous serez en bonne voie de mettre fin, définitivement, au vol et au viol. Quant au soi-disant accident, le camion qui surgit dans une courbe, la brique qui tombe du ciel, apprend à accueillir chacun de ces incidents comme une parcelle d'une grande mosaïque. Tu es venu ici pour établir le plan individuel de ton propre salut. Mais le salut ne veut pas toujours dire se sauver des pièges du diable. Le diable n'existe pas, l'enfer non plus. C'est toi-même qui te sauves de l'oubli, du non-accomplissement. Tu ne peux perdre cette bataille. Tu ne peux échouer. Ce n'est donc absolument pas une bataille, mais un simple processus. Mais si tu ne le sais pas, tu y verras une lutte constante. Tu vas peut-être même croire à la lutte suffisamment longtemps pour créer une religion entière autour d'elle. Cette religion enseignera que tout n'est qu'une question de lutte. Cet enseignement est faux. Ce n'est pas par la lutte que le processus progresse. C'est par le lâcher-prise que l'on remporte la victoire. Les accidents arrivent parce qu'ils arrivent. Certains éléments du processus de la vie se sont rencontrés de façon particulière, à un moment particulier, avec des résultats particuliers. Des résultats que vous choisissez de qualifier de malheureux, pour des raisons qui vous sont propres. Cependant, ils ne sont peut-être pas du tout malheureux, en regard du programme de ton âme. Je te dis ceci, il n'y a pas de coïncidence, et rien n'arrive par hasard, par accident. Chaque événement, chaque aventure est appelé vers ton soi, par ton soi, afin que tu puisses créer et faire l'expérience de qui tu es vraiment. Tous les maîtres véritables savent cela. C'est pourquoi les maîtres mystiques demeurent imperturbables devant les pires expériences de la vie, telles que tu les définirais. Les grands maîtres de ta religion chrétienne comprennent cela. Ils savent que la crucifixion n'a pas dérangé Jésus. Il aurait pu s'en aller, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu arrêter le processus à tout moment. Il avait ce pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé crucifier afin de pouvoir représenter le salut éternel de l'homme. « Regardez, disait-il, ce que je peux faire. Regardez ce qui est vrai. Et sachez que ces choses et bien d'autres, vous les ferez. Car ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux ? Mais vous ne croyez pas. Alors, si vous ne pouvez pas croire en vous-même, croyez en moi. » La compassion de Jésus était si grande qu'il a demandé, et créé, un moyen d'avoir un tel impact sur le monde que tous iraient au ciel, l'accomplissement de soi. S'il n'y avait aucun autre moyen, alors ce serait par lui, car il a vaincu le malheur et la mort, et tu pourras en faire autant. Le plus grand enseignement du Christ n'était pas « tu auras la vie éternelle », mais « tu l'as ». Non pas « tu seras en fraternité avec Dieu », mais « tu l'es ». Non pas « tu auras tout ce que tu demandes », mais « tu l'as ». Il suffit de le savoir, car tu es le créateur de ta réalité, et la vie ne peut apparaître d'aucune autre façon pour toi que celle à laquelle tu peux penser qu'elle apparaîtra. C'est par la pensée que tu l'as fait exister. C'est la première étape de la création. Dieu le Père est pensée. Ta pensée est le parent qui donne naissance à toute chose. C'est l'une des lois dont nous devons nous rappeler ? Réponse : oui. Question : peux-tu parler des autres ? Réponse : je vous ai parlé des autres. Je vous les ai toutes exposées depuis le commencement des temps. À maintes reprises, je vous les ai exposées. Je vous ai envoyé une foule d'enseignants, mais vous n'écoutez pas mes enseignants. Vous les tuez. Question : mais pourquoi ? Pourquoi tuons-nous les plus saints d'entre nous ? Nous les tuons ou les déshonorons, ce qui revient au même ? Pourquoi ? Réponse : parce qu'il s'oppose à toute idée de toi qui me nierait. Et si tu veux nier ton soi, tu dois me nier. Question : pourquoi voudrais-je te nier ou même me nier, moi ? Réponse : parce que tu as peur. Et parce que mes promesses sont trop belles pour être vraies. Parce que tu ne peux pas accepter la vérité la plus merveilleuse. Et alors, tu dois te résigner à une spiritualité qui enseigne la peur, la dépendance et l'intolérance plutôt que l'amour, le pouvoir et l'acceptation. Tu es rempli de peur. Et ta plus grande peur est que ma plus grande promesse soit le plus grand mensonge de la vie. Tu crées donc le plus grand fantasme possible pour te défendre de cela. Tu prétends que toute promesse qui te donne le pouvoir et te garantit l'amour de Dieu est la fausse promesse du diable. Dieu ne ferait jamais une telle promesse, te dis-tu. Seul le diable la ferait. Pour te tenter de nier la véritable identité de Dieu, celle simplement qui effraie, juge et jalouse, se venge et punit. Même si cette description convient mieux à celle du diable, s'il existait, tu as assigné à Dieu des caractéristiques diaboliques, afin de te convaincre de ne pas accepter les promesses divines de ton Créateur ou les qualités divines du soi. Tel est le pouvoir de la peur. Question. J'essaie d'abandonner ma peur. Me parlerais-tu encore davantage des lois ? Réponse. La première loi, c'est que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu imagines. La deuxième loi, c'est que tu attires ce que tu crains. Question. Pourquoi donc ? Réponse. L'émotion est la force qui attire. Ce que tu crains fortement, tu en feras l'expérience. Un animal, que tu considères comme une forme de vie inférieure, bien que les animaux agissent avec plus d'intégrité et de cohérence que les humains, sait immédiatement si tu as peur de lui. Les plantes, que tu considères comme une forme de vie encore plus inférieure, réagissent bien mieux à ceux qui les aiment qu'à ceux qui ne s'en soucient guère. Rien de cela n'est une coïncidence. Il n'y a aucune coïncidence dans l'univers. Il n'y a qu'un grand dessein, un incroyable flocon de neige. L'émotion est de l'énergie en mouvement. Quand tu fais bouger de l'énergie, tu crées un effet. Si tu fais bouger suffisamment d'énergie, tu crées de la matière. La matière est de l'énergie agglomérée, brassée, tassée. Si tu manipules de l'énergie suffisamment longtemps, d'une certaine façon, tu obtiens de la matière. Tout maître comprend cette loi. C'est l'alchimie de l'univers. C'est le secret de toute vie. La pensée est de l'énergie pure. Chaque pensée que tu as jamais eue et que tu n'auras jamais, est créative. L'énergie de ta pensée ne meurt jamais. Jamais. Elle quitte ton être, s'éloigne dans l'univers et s'étend à jamais. Une pensée est éternelle. Toutes les pensées coagulent. Toutes les pensées rencontrent d'autres pensées, se croisant en un incroyable labyrinthe d'énergie, formant un pattern en changement perpétuel, d'une inexprimable beauté et d'une incroyable complexité. L'énergie attire de l'énergie semblable et forme, pour parler en termes simples, des bouquets d'énergie semblables. Lorsqu'un nombre suffisant de bouquets d'énergie semblables se croisent, se rencontrent, ils collent les uns aux autres. Pour utiliser un autre terme simple. Par conséquent, il faut une quantité incroyablement gigantesque d'énergie semblable qui colle ensemble pour former de la matière. Mais il se forme vraiment de la matière à partir d'une énergie pure. En fait, c'est la seule façon dont elle puisse se former. Une fois l'énergie devenue matière, elle le reste très longtemps, à moins que sa construction ne soit interrompue par une forme d'énergie contraire ou dissemblable. En agissant sur la matière, cette énergie dissemblable démembre véritablement la matière, en libérant l'énergie brute dont elle était composée. Voilà en termes élémentaires la théorie qui se trouve derrière votre bombe atomique. Einstein est venu près, plus que tout autre humain, avant ou après lui, de découvrir, d'expliquer et de rendre fonctionnel le secret créatif de l'univers. Tu devrais maintenant mieux comprendre comment les personnes d'esprit semblables peuvent travailler ensemble pour créer une réalité choisie. La phrase « chaque fois qu'au moins deux personnes se rassembleront en mon nom » prend un sens beaucoup plus fort. Bien entendu, lorsque des sociétés entières pensent d'une certaine façon, il se produit très souvent des choses étonnantes qui ne sont pas toutes nécessairement désirables. Par exemple, très souvent, en fait inévitablement, une société vivant dans la peur donne forme à ce qu'elle craint le plus. De même, de grandes communautés et congrégations trouvent souvent un pouvoir miraculeux dans l'amalgame de la pensée, ou dans ce que certaines personnes appellent la prière commune. Il doit être clairement établi que même les individus, si leur pensée, prière, espoir, souhait, rêve, peur, est extrêmement forte, peuvent, à eux seuls, produire de tels résultats. Jésus le faisait couramment. Il savait comment manipuler l'énergie et la matière, comment la réarranger, comment la redistribuer, comment la contrôler de façon absolue. Bien des maîtres l'ont su, beaucoup le savent à présent. Tu peux le savoir, tout de suite. C'est la connaissance du bien et du mal à laquelle Adam et Ève ont pris part. Avant qu'ils ne comprennent cela, la vie telle que tu la connais ne pouvait se manifester. Adam et Ève, ce sont les noms mythiques que tu as donnés au premier homme et à la première femme, ont été le père et la mère de l'expérience humaine. Ce qu'on a appelé la chute d'Adam était en réalité son éveil, le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité, car sans elle, le monde de la relativité n'existerait pas. L'acte d'Adam et Ève n'était pas le péché originel, mais, en vérité, la première bénédiction. Tu devrais les remercier du fond du cœur, car en étant les premiers à faire un mauvais choix, Adam et Ève ont fourni la possibilité de faire un choix. Dans votre mythologie, vous avez fait d'Ève la méchante, la tentatrice qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et en faisant la coquette, a invité Adam à faire de même. Ce piège mythologique vous a permis de faire de la femme la chute de l'homme, ce qui a engendré toutes sortes de réalités bizarres, sans parler des attitudes tordues et confuses sur la sexualité. Comment pourriez-vous tirer autant de plaisir de quelque chose d'aussi mauvais? Ce que vous craignez le plus, c'est ce qui vous affligera le plus. La peur va l'attirer vers vous comme un aimant. Toutes vos saintes écritures, de toutes les religions et traditions que vous avez créées, renferment un avertissement clair. N'ayez pas peur. Crois-tu que ce soit par accident? Les lois sont très simples. Petit 1. La pensée est créative. Petit 2. La peur attire de l'énergie semblable. Petit 3. L'amour est tout. Question. Oh là, je ne te suis plus avec la troisième. Comment l'amour peut-il être tout si la peur attire de l'énergie semblable? Réponse. L'amour est l'ultime réalité, c'est la seule, le tout. Le sentiment d'amour est ton expérience de Dieu. En toute vérité, l'amour est tout ce qui existe, tout ce qui a existé et tout ce qui existera jamais. Quand tu entres dans l'absolu, tu entres dans l'amour. Le domaine du relatif a été créé pour que je puisse faire l'expérience de moi-même. Cela t'a déjà été expliqué. Cela ne rend pas réel le domaine du relatif. C'est une réalité créée que toi et moi avons conçue et continuons de concevoir afin de pouvoir nous connaître de façon expérientielle. Cependant, cette création peut sembler très réelle. Son but est de sembler assez réel pour que nous l'acceptions comme si elle existait vraiment. Ainsi, Dieu a imaginé de créer autre chose que lui-même, bien que, en termes rigoureux, ce soit impossible, puisque Dieu est tout ce qui est. En créant autre chose, c'est-à-dire le domaine du relatif, j'ai produit un environnement dans lequel tu peux choisir d'être Dieu, plutôt que de seulement te faire dire que tu es Dieu, dans lequel tu peux faire l'expérience de la divinité comme un acte de création et non comme une conceptualisation dans lequel la petite chandelle au soleil, la plus petite âme, peut se connaître comme étant la lumière. La peur est l'extrême opposé de l'amour. C'est la polarité primale. En créant le domaine du relatif, j'ai d'abord créé le contraire de moi-même. Alors, dans le domaine dans lequel vous vivez, sur le plan physique, on ne peut être qu'à deux endroits, dans la peur ou dans l'amour. Les pensées enracinées dans la peur produiront telle sorte de manifestation sur le plan physique. Les pensées enracinées dans l'amour en produiront telle autre. Les maîtres qui ont foulé le sol de la planète sont ceux qui ont découvert le secret du monde relatif et refusé de reconnaître sa réalité. Bref, les maîtres sont ceux qui n'ont choisi que l'amour, dans tous les cas, à tout instant, en toutes circonstances. Même à l'instant où on les tuait, ils ont aimé leurs meurtriers. Même pendant leur persécution, ils ont aimé leurs oppresseurs. Tu as de la difficulté à entendre cela, encore davantage à faire de même? Mais c'est ce que chaque maître a fait, peu importe sa philosophie, peu importe sa tradition, peu importe sa religion, c'est ce que chaque maître a fait. Cet exemple et cette leçon ont été clairement énoncés à votre intention. À maintes reprises, encore et toujours, ils vous ont été montrés. En tout temps et en tout lieu, tout au long de votre vie et à chaque instant, l'univers a utilisé tous les moyens nécessaires pour placer cette vérité devant vous, en chansons et en contes, en poésie et en danse, en paroles et en mouvement, dans des images du mouvement que vous appelez films et dans des collections de paroles que vous appelez livres. On l'a crié de la plus haute montagne, dans les recoins les plus obscurs, son murmure a été entendu. Dans les couloirs de toute expérience humaine, cette vérité a résonné. La réponse est l'amour. Mais tu ne l'as pas entendu. À présent, tu arrives à ce livre et tu demandes à Dieu ce qu'il t'a dit d'innombrables fois, d'innombrables façons. Mais je te le redirai, ici, dans le contexte de ce livre. Vas-tu écouter maintenant? Vas-tu vraiment entendre? Qu'est-ce qui, d'après toi, t'a attiré vers ce livre? Comment se fait-il que tu l'aies entre les mains? T'imagines-tu que je ne sache pas ce que je fais? Il n'y a pas de coïncidence dans l'univers. J'ai entendu pleurer ton cœur, j'ai vu chercher ton âme, je sais à quel point tu as désiré la vérité. Tu en as crié de douleur et de joie. Sans fin, tu m'as imploré. Montre-moi, explique-moi, révèle-moi qui je suis. Je le fais ici, en termes si clairs que tu ne pourras mal les comprendre, en un langage si simple que tu ne pourras t'y perdre, en un vocabulaire si ordinaire que tu ne pourras t'égarer dans le verbiage. Alors vas-y, demande-moi tout, tout, je ferai en sorte de t'apporter la réponse. Pour cela, j'utiliserai tout l'univers. Alors sois attentif. Ce livre est loin d'être mon seul outil. Tu peux poser une question, puis poser ce livre. Mais observe. Écoute les paroles de la prochaine chanson que tu entendras, l'information du prochain article que tu liras, le synopsis du prochain film que tu regarderas, la phrase fortuite de la prochaine personne que tu rencontreras, ou le murmure de la prochaine rivière, du prochain océan, de la prochaine brise qui te caressera l'oreille. Tous ces procédés sont miens. Toutes ces avenues me sont ouvertes. Si tu écoutes, je te parlerai. Je viendrai à toi si tu m'invites. Je te montrerai que j'ai toujours été là, de toutes les façons.